C'est mardi, c'est librairie. Les voix de l'Alma aujourd'hui avec Hugues Dedi. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Caroline Berthelot de La Femme Renard. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Griffo. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Bernadeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est Hugues Dedi qui commence avec les contes de la fée verte aujourd'hui.
Absolument, les contes de la fée verte de Poppy Z. Bright, une auteure trop peu connue du grand public. Au début des années 90, cette demoiselle a écrit bon nombre de romans et de nouvelles relevant à la fois de la culture gothique et du splatterpunk. Le splatterpunk, il faut le dire comme ça. Donc le splatterpunk est un courant littéraire propre à l'horreur avec pour caractéristique, entre autres, des scènes extrêmement crues. Souvent présentée comme une copycat de Anne Rice, son univers a la sensibilité du poète et l'œil impassible et inséré du chirurgien. Les contes de la fée verte regroupent 12 nouvelles dont la plupart se déroulent dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Comme bien des écrits de Poppy Z. Bright, tous les textes, absolument tous, sont malsains. C'est cru, c'est violent, c'est gore, ça vous prend à l'estomac, on a envie d'arrêter de lire, mais une fois reposé, les lignes reviennent en mémoire, vous hantent, vous rongent, alors il ne reste plus qu'à se remettre à lire pour répondre à l'impétueux besoin de lire ces nouvelles horribles. Masochisme possible, fascination sans aucun doute. Toujours est-il qu'on se prend au jeu. On suit des êtres, majoritairement des jeunes hommes, toujours très beaux, dont la vie se transforme en indicible horreur. Indicible horreur, toujours liée à une quantité conséquente d'alcool et d'absinthe précisément. Mêlant zombies, pilleurs de tombes, vampires, déesses sanguinaires avec énormément de talent, ce recueil n'est pas à conseiller à tous les lecteurs. Le style de Poppy est simple, elle appelle un chat, et un viscère. Aucune équivoque possible, ni de jolis mots pour vous faire passer la pilule sanguinolente. Ça s'appelle « Les contes de la fée verte » de Poppy Z. Bright aux éditions Folio.
Merci Hugues Dedi. Caroline, votre ouvrage présenté aujourd'hui, c'est « La théorie de la vilaine petite fille ».
Oui, tout à fait. « Théorie de la vilaine petite fille », c'est le nouveau roman d'Hubert Haddad. Vous savez combien je l'apprécie. J'avais d'ailleurs déjà chroniqué ici son précédent ouvrage, « Le peintre d'éventail », où il était question de cet art ancestral et de la beauté des jardins de pierre japonais. Ici, c'est un tout autre univers que nous convie Hubert Haddad, puisque nous voilà cette fois-ci propulsés en mars 1848 à Hightsville, au plus profond de l'Amérique puritaine de l'époque, chez la famille Fox, ça ne s'invente pas. Kate et Maggie sont les deux dernières de la famille, et si Maggie est sage, au moins en apparence, Kate, en revanche, est espiègle et casse-cou. Au point de répondre en pleine nuit au bruit répété qui semble émaner de la vieille ferme dans laquelle ils viennent tous d'emménager, et que Kate attribue à un esprit de la maison qu'elle a facétieusement baptisé Monsieur Splitfoot. Vous me voyez venir, Monsieur Splitfoot va se mettre à converser la nuit avec la petite Kate, c'est l'invention du spiritisme aux États-Unis. À partir de là, on va suivre l'incroyable destinée des sœurs Fox et de leurs dons, et de ce fait l'incroyable histoire et évolution du spiritisme aux États-Unis et de par le monde. Des premiers coups portés dans cette vieille ferme de Hightsville aux conférences en Europe, des exhibitions dans des foires aux émeutes déclenchées par les détracteurs des tables tournantes, vous allez tout apprendre et tout connaître et vous croiserez au cours de ce roman foisonnant et facétieux les plus grands noms de l'Amérique de ces années-là. Vous suivrez aussi à un rythme entraînant sur fond musical l'essor d'un certain nombre de pratiques spirituelles que l'on connaît encore aujourd'hui, ça c'est assez surprenant. Voilà, bref, théorie de la vilaine petite fille, c'est extrêmement documenté, c'est très intelligent dans sa construction. Et c'est un livre diablement jubilatoire, parole de Fox.
Théorie de la vilaine petite fille, on n'a pas le droit à un petit extrait?
Eh bien, on va lire un petit extrait pour avoir un peu une idée de l'ambiance, sachant qu'on joue sur tous les registres, puisqu'il y a un côté parodique dans ce roman, et du coup, comme à chaque fois, Hubert Haddad s'empare d'un genre et en fait n'importe quoi. Et là, c'est le chapitre 10, début du chapitre 10, c'est la première conversation avec Monsieur Splitfoot. Au fil des nuits de ce mois de mars, les phénomènes prirent une ampleur sans précédent. Les secousses du parquet dans les chambres faisaient trembler les lits et on ne pouvait se tenir debout sans ressentir à chaque coup une longue vibration de bas en haut de la colonne vertébrale. À l'approche de minuit, les bruits tour à tour sourds ou détonnants, lointains ou proches, pareils à l'effet d'une cognée sur une bûche ou d'une masse de fonte contre quelques planches brisées nettes, se précipitaient sans discontinuer, si bien que le repos de la famille était suspendu aux caprices mystérieux de leur demeure. Seul John Fox, homme de certitude qui ne jurait que par les croyances et théories de l'église épiscopale méthodiste, assez peu encline aux superstitions et toujours habile à ramener l'insolite à la malignité des causes, ne voulait en aucun cas renoncer à son stertoreux sommeil. Face à l'inquiétude croissante de son épouse, il affichait cette contenance butée du forçat volontaire que l'alcool enchève d'en suquer. La baraque, selon lui, souffrait de son antiquité, le bois travaillait, il y avait des glissements de terrain. Ces histoires de revenants n'étaient que des âneries. On pouvait seulement craindre de se trouver emporté par un éboulement au fond de l'étang. Mais par la grâce du Seigneur et de quelques godets d'un honnête whisky, son digne repos n'aurait su en être perturbé. Cette nuit-là, l'ultime du mois de mars 1848, le père Fox étant encore à ses affaires à Rochester, les trois habitantes de la ferme de la Longue Route, tout à fait épuisées par le désordre de la veille, se couchèrent dans la même chambre, celle des parents, dans l'espoir d'échapper aux affres de l'insomnie. Bonne mère et Margaret, Maggie, s'étaient depuis longtemps assoupies quand les heures repartirent de plus belle peu avant minuit. Kate ne dormait jamais que d'un œil. Comme la veille, elle guettait les signes avant-coureurs du phénomène au fond d'elle-même, impassible, pénétrée par l'immense prodige d'être vivante au cœur de ces ténèbres. Elle eût très bien pu disparaître inopinément ou se métamorphoser en chat ou en cruche sans que cela changeât d'un cheveu ou d'un monde cette étrangeté qui battait avec l'horloge au bout extrême de la seconde. Être soi, petite fille négligeable, et sentir avec une folle acuité l'enlacement des mystères de la nuit était une épreuve dont elle voulait s'amuser pour ne pas mourir de terreur. Mr. Splitfoot, une fois pour toutes, rassemblait selon sa fantaisie les énigmes des lieux clos et poussiéreux, tandis que le pot rouge à lunettes vertes l'accompagnait dans les espaces ouverts, forêts et hautes plaines, en messager du peuple des vents et de la lumière. Cependant, les coups se firent plus violents. Assez pour réveiller Maggie couchée à sa dextre, la même où ronflait le père Fox d'ordinaire, tandis que bonne mère soupirait doucement à ce nestre. Maggie vit sa sœur occupée à faire craquer ses phalanges, pouce contre majeur. À sa grande stupeur, les coups répondirent en écho, juste après les claquements de doigts. Un coup pour un coup, deux pour deux, et ainsi de suite. Mr. Splitfoot jouait à donnant-donnant. Kate prit ce ton malicieux qui lui était si favorable avec les grandes personnes, à la fois séduites et décontenancées. « Si tu sais compter jusqu'à sept, prouve-le !» Sept coups suivirent, parfaitement espacés l'un de l'autre et d'une proximité alarmante.
Extrait de Théorie de la vilaine petite fille. Merci Caroline pour cette lecture. Jacques, série de trois ouvrages.
Je vais vous présenter trois livres, alors c'est un peu original. Trois livres, ou plutôt trois livrets d'ailleurs, parce que chacun ne comporte que 24 pages. Ces trois livrets qui vont trouver très vite une place dans votre bibliothèque et dans votre cuisine. Dans votre bibliothèque, parce que ce sont de très beaux objets. Le choix des papiers, composition typographique, la reliure cahier dit collier avec fil de lin. Puis vous savez, c'est ces livres pour lesquels il faut se munir d'un coupe-papier pour couper les pages. Quoi. Coup de chapeau donc aux éditions de L'Épure qui sont installées dans le 14e arrondissement de Paris. Et dans votre cuisine aussi, parce que ce sont trois livres de recettes, mais un peu particuliers. L'auteur Sonia Esgulion revendique fièrement son statut de cuisinière. Mais ce qu'elle aime, c'est déjouer la routine, imaginer des petits riens qui changent le quotidien. Alors voilà les titres de ses livres. Les déchets, 10 façons de les accommoder. Les restes, 10 façons de les accommoder. Les épluchures, 10 façons de les accommoder. Alors on va les feuilleter si vous voulez bien. Ces déchets. Ces déchets, précise l'auteur, sont radio-créatifs, pas du tout toxiques. Mais j'imagine mal tout de même sur un menu d'un restaurant, déchets savoureux, par exemple. Quelques-unes de ces recettes. Jarret de veau aux fumées de carcasses de crevettes. Saint-Jacques en chapelure de pelure d'oignon. Arête de sardines croustillantes sur canapé. Jelly and pie aux trognons de pommes. Dans la préface qui est de celui qui est consacré au reste, l'auteur rend hommage à sa grand-mère Victorine. Moi, j'aurais adoré avoir une grand-mère qui s'appelait Victorine. Victorine, je trouve ça génial. Enfin bon, après, ça c'est un aparté. Victorine Auvergnate, reine de la cuisine ménagère économe. Quelques recettes au hasard. Avec des restes de carottes râpées, elle vous propose un œuf à cheval végétarien. Avec des restes de spaghettis nature ou à la bolognaise, vous pourrez faire une galette de spaghettis comme une pizza. avec des restes de riz au lait, des barres aux céréales et chocolat. Avec des restes de mie de pain ou de brioche, une tarte à la mie de pain, bien sûr. Dans celui consacré aux 10 façons d'accommoder les épluchures, elle propose des cosses de petits pois farcis, un velouté de queue de persil aux ravioles de roman, une crème de pépins de courgette au curry, des tuiles de caramel à la peau de pêche. Le prix de chacun de ces très beaux et utiles petits livres est 7 euros. Je vous assure que vous en aurez pour vos papilles, car Sonia Esgulian sait marier les saveurs avec une touche d'insolite. Voilà des livres à offrir, à s'offrir.
Et c'est aux éditions de l'Épure. Pour la petite histoire, je sais que récemment, aux éditions de l'Épure, une personne a renvoyé les ouvrages en demandant qu'ils soient finis, qu'on veuille bien lui renvoyer des ouvrages finis parce que ils n'étaient pas découpés.
Ah, parce que les pages n'étaient pas coupées.
Ouais. Comme quoi on n'est pas tout le temps compris dans ces démarches. Merci Jacques. Quelques actualités. On commence par vous, Philippe.
Oui, il y aura en fin de semaine, des rencontres autour du thème 10 femmes puissantes en lutte contre l'esclavage. Et en particulier le mercredi 23 avril, une conférence de Françoise Vergès à la Maison de la Culture. Nous présenterons à l'issue de cette conférence principalement ces trois ouvrages en relation avec le thème, La mémoire enchaînée, L'homme prédateur et des entretiens avec Aimé Césaire sous le titre Nègre, je suis nègre, je serai, tous les trois chez Albin Michel. Et c'est à l'ancien collège, donc, et pas à la librairie.
Caroline?
Et nous, ce sera le jeudi 24 avril à 19h à la librairie et nous avons l'immense plaisir de recevoir justement Hubert Haddad pour parler spiritisme et table tournante autour de théorie de la vilaine petite fille.
Ouais, ce sera bien sûr à la librairie La Femme Renard.
Exactement.
Philippe,
faut-il rappeler qu'Hubert Haddad sera l'invité des lettres d'automne? On va beaucoup en parler donc. Le samedi 26, l'après-midi de 14h30 à 19h, Hervé Priels dédicacera à la librairie de Loche le chemin initiatique du Petit Prince. Donc, vous l'avez compris, c'est une lecture ésotérique du Petit Prince.
Ben voilà, on arrive au bout de cette émission. Rappelez-nous, s'il vous plaît, les titres et les références des ouvrages que vous avez présentés et qui, je le rappelle, sont en permanence sur votre site internet librairiemontauban.fr.
Hugues. Alors moi, je vous ai parlé des Contes de la Fée Verte de Poppy Z. Bright chez Folio.
Les épluchures, 10 façons de les accommoder. Les restes, 10 façons de les accommoder. Les déchets, 10 façons de les accommoder. De Sonia Esgulian aux éditions de l'Épure.
Et théorie de la vilaine petite fille d'Hubert Haddad aux éditions Zulma.
Merci, c'était les voix de l'Alma. On se retrouve mardi prochain.
Au revoir.
Au revoir.